Alors, on est toujours dans les fantômes de la déconnexion. Après ces illusions ou cette possible, impossible déconnexion, eh ben, on va refaire nos designers. On va faire nos designers. Et on va essayer de voir comment on fait concrètement, essayer de dresser un guide tactique de la déconnexion. Alors, pour ça, il y a un exemple récent dans la série américaine Black Mirror, saison 3.
Anglaise, pardon.
Qui, du coup, met en scène dans cet épisode que je vais vous spoiler. Enfin, vous divulgâcher.
Non,
chut. Non, c'est juste la thématique, je donne pas la fin promis. Dans cet épisode, une fille, ou une société plutôt, note chaque individu en fonction de ses actions sociales dans la vie quotidienne et attribue un score de 0 à 5. Et moins ce score est élevé, plus la personne est dévalorisée, voire exclue socialement. Du coup, ici, ben, la déconnexion du réseau ou du pouvoir social devient une forme de punition très concrète. On lui interdit l'accès dans le bus, elle ne peut rien acheter, etc. Et ben, du coup, là, on peut se poser la question, faut-il se déconnecter dans cette situation, Pierre ?
Bah, comment mesurer aussi la nécessité d'être connecté à tel ou tel site ? Nous, c'est une question qu'on avait déjà posée. En fait, on avait déjà présenté nos recherches donc, dans un lieu, un haut lieu de la recherche que les gens ne connaissent peut-être pas, qui s'appelle Cerisy. Et on y avait défendu, en parlant des notifications, donc, qui sont aussi très invasives et qui sont un petit peu dans le prolongement de l'hyperconnexion, même si on n'aime pas trop ce mot, qu'on a pu décrire aujourd'hui. Et relativement à ça, on avait donc défendu un concept de politique des filtres, c'est-à-dire un regard actif et conscient vis-à-vis de ce qu'on laisse entrer et de ce qu'on laisse pas rentrer. Donc il y a vraiment une question de consentement ici qui est hyper forte, en fait, de à quoi on dit oui. Et j'ai la sensation, Anthony, tu me diras ce que t'en penses, mais que cette conscience-là, elle est pas très bien installée, on va dire, dans le grand public, alors c'est toujours difficile de généraliser, mais que il y a une difficulté à saisir que lorsqu'on s'inscrit sur un site, quel qu'il soit, on va dire Facebook au hasard, on autorise quelque chose à rentrer, en fait. En même temps qu'on a accès soi-même à un ensemble d'informations, de services, de jeux, ben, que sais-je, on laisse aussi des choses entrer, on se laisse définir par cette technologie-là.
Oui, parce que c'est aussi que toi et moi, ou même personne d'ailleurs, quasiment ne prend le temps de lire ces conditions d'utilisation habitable, on coche la case et on passe à la suite, et après on sait plus ce qui se passe. Mais après, bon, Black Mirror, ceci dit, que j'ai essayé de ne pas trop divulgâcher, est déjà parmi nous. Effectivement, on a déjà des scores, des followers, des fans, des amis, que sais-je, et des services qui agrègent ces différents scores en un seul. Alors bon, ça a pas trop marché commercialement, mais Clout, K-L-O-U-T, était une tentative de noter toutes les personnes de 1 à 100, et dans son modèle économique initial, donnait droit à des surclassements en avion, dans les hôtels ou autres, si les différentes marques voyaient que vous aviez un score, bah, vous étiez par exemple assis tout seul dans le train.
Pour une fois, c'est moi qui apporte une précision. Ça a été mis en pratique en Chine, en République démocratique chinoise, où en fait, si justement, si tu as des interactions avec des citoyens qui sont pas, qui ont eu un passé judiciaire, ou si tu ne retweets pas au moins 10 articles de la presse officielle, tu peux commencer à perdre des notes. Et ils ont mis en place justement le mois dernier. Tu ne peux plus prendre l'avion ou les lignes de train rapide, tu es obligé de passer qu'en train normal, ce qui est extrêmement pénalisant à l'échelle d'un continent.
Black Mirror est parmi nous.
Ah oui, non, mais ils l'ont mise en pratique, ils souhaitent bien l'appliquer d'une manière beaucoup plus drastique, même en dehors de leur état.
On le retrouve dans la fiction aussi, c'est peut-être le moment de conseiller un exceptionnel roman qui traite de ces questions et qui les traite aussi vis-à-vis de la question des histoires d'amour. Décidément, je parle que de ça. C'est un bouquin de Gary Steingart qui s'appelle Triste histoire d'amour, ou Super triste histoire d'amour, voilà, dans sa traduction française, et qui décrit comme ça des gens qui sont en permanence connectés à leurs terminaux, donc ça s'appelle pas des iPhones, ça s'appelle des apparates dans le livre. Et effectivement, les usagers sont constamment en train de vérifier leur code de popularité. Alors là où c'est intéressant, c'est que toi, Anthony, Tu parlais de cas où c'était des entités commerciales plutôt qui jugeaient de la recevabilité d'une candidature ou d'un achat par un individu. Donc c'est des questions d'accès. Mais ce qui est intéressant dans l'ouvrage de Steingart, c'est que les individus eux-mêmes ont hyper intériorisé ce système de notation, un petit peu comme dans l'épisode de Black Mirror, et prennent finalement au sérieux et totalement au premier degré les notes qui sont distribuées sur le réseau.
Par rapport à ce que tu disais sur la politique des filtres, j'ai cherché des solutions. J'en ai trouvé une, peut-être qui va t'intéresser. Ça s'appelle freedom.to, donc liberté. Et donc, c'est un service payant, désolé.
Ah non.
Ah bah, il n'y a rien de gratuit. À 7$ par mois, à peu près, qui du coup te permet de bloquer de façon sélective différents services, donc Twitter, Facebook. Tu peux définir des plages horaires, des minimums et des maximums de temps de connexion. Et c'est synchronisé sur tous tes appareils dans le cloud, dans les nuages. Donc c'est un service qui fonctionne sur plusieurs terminaux en même temps et qui te permet, même si ton téléphone pour cheater, pour tricher, si tu voulais aller sur Facebook depuis ton ordinateur portable, ça te bloque aussi. Donc qu'est-ce que t'en penses du coup?
Bah, je sais pas, Framasoft l'a pas cloné encore. On essaie de faire libre, Anthony, je te rappelle. Hein. On essaie de plus s'abonner à des trucs verrouillés, gaffaïsés, là. On essaie de faire des efforts. Bon. Tant pis. Du coup, peut-être qu'on pourrait expliquer notre titre, parce qu'on parle de fantôme de la déconnexion là depuis je sais pas combien de temps. Et au final, bah, on n'a toujours pas parlé de fantôme.
C'est mal. Bah, oui, c'était l'idée qu'on a déjà un petit peu soulevée, c'est que chaque connexion porte en elle le germe de la déconnexion. Et aussi, avec ton illusoire sortie de Facebook, il en
Merci
reste toujours quelque
rappeler.
Chose. Et oui, mais bon, ceci dit, moi je suis peut-être le junkie qui est encore de l'autre côté. Au moins, t'as essayé d'en sortir.
C'est vrai, d'ailleurs, t'es tenté un peu là. Tu me disais tout à l'heure.
Ça commence à picoter, ouais.
2017, je quitte Facebook.
C'est peut-être l'année.
Ah, bon, restez, stay tuned. On verra si Anthony quitte Facebook ou pas. Ce que je trouve marrant, c'est qu'on est toujours guettés par ça. C'est pour ça qu'on a pris ce thème finalement des fantômes. C'est que la question de la déconnexion nous hante, en fait. Dès qu'on rejoint ces services ou dès qu'on en vit l'excessive nécessité, parce que c'est souvent comme ça, on se dit, ah, c'est quand même bien pratique, ou ah, je sais pas comment j'aurais fait sans. Et dès lors qu'on statue sur cette nécessité, en fait, en se disant ah, c'est quand même très pratique, bah, derrière nous, en fond, on a cette idée de ouais, mais est-ce que je devrais, est-ce que je pourrais me déconnecter ? Donc, c'est ce que tu disais. Dans
on
chaque connexion, il y a cette idée.
Pression sociale, mais aussi la technologie charrie tout un tas de fantômes, de mythes et de problèmes. Et bon, alors, c'est pas Deleuze. mais quand même, je l'ai cité Derrida, alors à titre d'extension, on l'a pas. Trop travaillé dans la préparation de podcast, mais c'est écrit sur la spectralité et les technologies. Je pense qu'il pourrait être intéressant à être étudié si on voulait prolonger ça.
Bon, alors on va faire un cadeau à Daskrich qui ne voulait pas qu'on cite des auteurs compliqués. Donc on va plutôt citer Dunn and Rebus, ce sont des designers en plus. Des designers formidables. Les designers nous aident à la déconnexion. Deux designers qui sont hyper intéressants. Donc ils travaillent à deux, c'est Anthony Dunn et Fiona Raby. Ils ont travaillé super longtemps en Angleterre, aujourd'hui ils sont à la New School à New York, il me semble. Et bon, ça fait maintenant 10 ans, mais c'est pour montrer aussi que leur production est vraiment d'actualité. Ils ont travaillé sur plusieurs projets, alors ils avaient les Hertzian Tales, donc les contes hertziens, mais aussi un ensemble de projets qui s'appelait les objets placebo et qui étaient au fond des objets qui tenaient un discours sur notre profond attachement aux technologies, mais aussi à toutes les questions de paranoïa, de dépendance qui pouvaient se poser par rapport à ces objets. Je sais pas, Anthony, si tu vois la Risk Watch, tu vois ce que c'est ou
Non, tu peux expliquer.
C'est cette montre-là où, en fait, alors t'as pas de cadran, ça n'indique pas l'heure, mais ça contient juste un petit micro. Et quand tu l'approches de ton oreille, ça te géolocalise et ça te dit, alors je sais plus, ça te donne un score de dangerosité par rapport à l'endroit où tu te trouves.
Donc là,
dans le monde.
Là, on serait mal ici, quoi.
Tu penses? Avec ouais. Toulouse, ouais.
Non, bon, avec Daskrich.
Et sinon, l'horloge statistique, c'est pas mal aussi. L'horloge statistique, ça se présente comme une espèce d'énorme téton noir qui sort du mur. Et c'est un dispositif technologique, quand bien même ça ne se voit pas au premier abord. Et ça capte le flux de la BBC. Et ça compte, en fait, toutes les morts liées à la technologie en partant du flux BBC. Et si tu approches ton oreille de ce téton, ça te donne un chiffre clé qui est le nombre de morts liés à la technologie, donc ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, je sais pas, des gens qui sont morts dans des accidents de train, qui sont fait écraser par leur télé, que sais-je. Mais c'est
assez fantomatique, du coup, ouais.
Mais du coup, ça, c'est d'autres manières de matérialiser nos dépendances à la technologie. Donc, c'est des objets de design critique. Il faut expliquer quand même aux auditeurs que vous ne pouvez pas acheter ça dans votre magasin local.
Non, c'est
local.
Des objets un petit peu emblématiques qui ont pour vision de faire réfléchir à des sortes de dystopies ou d'utopies sociales et de les matérialiser concrètement dans des objets qui font réfléchir. Après, toute la question, c'est comment cette critique-là peut infuser des objets dont on sert tous les jours. Finalement, ce téton noir, c'est super, mais quid des 2 milliards de personnes qui sont sur Facebook ?
Alors du coup, Dunn & Rabbit ferait une réponse, je les cite vraiment, mais eux disent que finalement, leur pratique de design, elle n'est pas si éloignée des, on va dire, du grand public que ça, en disant, bah, nous finalement, au lieu de designer une chaise qui sera vendue uniquement dans des boutiques de prix et qui seront accessibles du coup uniquement à une certaine classe sociale, tu vois, par exemple chez Ligne Rosette, bah, finalement, par le biais du musée, qui est certes pas le lieu du design à l'origine, ils arrivent à toucher une plus grande population. Enfin bon, je suis d'accord avec toi que pour les usagers de Facebook directement, ça présente pas un intérêt transcendant. Peut-être que on peut parler de l'exposition qui nous hantée par les algorithmes.
Oui,
c'est ça,
Hunted by Algorithm, récemment donc mise en place à Paris, qui donc montrait des utilisations, détournements ou mises en scène d'algorithmes en tout genre, de façon artistique, avec notamment une réflexion autour des relations homme-animal-machine, des fantômes, des spectres, enfin. Disons, voilà, une mise en scène, une mobilisation artistique de ces technologies qui n'est pas si éloignée dans un sens des démarches de design critique. Mais j'aimerais quand même qu'on en vienne un petit peu au cœur, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire, mis à part exposer d'autres visions qui ne passent pas dans le réel? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres démarches possibles? Alors, j'en ai trouvé une. Désolé, on va retrouver dans la Silicon Valley.
Ah non, un gourou. Tu vas nous parler d'un gourou. Ah, encore un type ça. Qui veut expliquer à tout le monde comment ça marche, là. Ça va m'énerver.
Je me suis un petit peu laissé convaincre par Tristan Harris. Alors, son titre exact, c'était philosophie quelque chose chez Google, product philosopher, quelque chose. Bref, c'est un born again.
Au secours.
Il était chez Google il y a très plusieurs années. Il était en charge de cette vision des produits. Et il explique pourquoi c'est mal. Dans un article sur Medium, comme toi, Pia, qui s'appelle How technologies hijack our minds, comment les technologies ont infiltré nos esprits. Et donc, il explique tout un tas de stratégies néfastes, malhonnêtes, sombres, sournoises, de façons de hacker l'attention des pauvres utilisateurs qui ne se rendent compte de rien. Par exemple, tu es sur le site Cdiscount, tu vas ajouter un ordinateur à ton panier et ça t'ajoute en même temps une carte de réduction que tu n'as pas demandé. Là, c'est un bon exemple de problématique, attention, de trucage.
Ça s'appelle du dark design.
C'est ça, les dark patterns.
Les dark patterns, en design,
ça,
pardon.
Design malhonnête. Et donc, voilà. Et bah, alors, il est repenti, ce qui est facile parce qu'il a gagné plein d'argent chez Google, donc il a beau jeu de nous expliquer comment nous en sortir.
Bonne formule. Hein. J'espère que vous prenez tous des notes. Voilà, vous travaillez pour un GAFA pendant 10 ans. Et
c'est
puis
ça.
Après,
Après, on se fait de l'argent en disant comment en sortir. C'est comme les cigarettiers. Et les patchs. Et donc, ce patch a quand même un côté séduisant. Donc, il nous dit que les designers doivent être plus honnêtes, repenser les interfaces qui font ce qu'elles devraient faire et qui ne sont pas soumises à des raisons commerciales extérieures aux usages. Je ne sais pas ce que tu en penses. Est-ce qu'on est dans le vrai avec ce gourou ou pas?
Alors, moi, déjà, je n'aime pas les gourous, pour commencer. Et l'honnêteté des designers, encore une fois, c'est toujours très facile quand on est soi-même un designer qui est sorti du système. Il existe quand même aujourd'hui des entreprises ou des projets qui essayent d'incarner cette honnêteté du design, mais je les trouve hyper problématiques. Alors, on a beaucoup parlé déjà de Time Well Spent, qui est une initiative qui, en fait, revient à inventer des services en surcouche pour moraliser certains services qui seraient déficients ou néfastes par les usages qu'ils proposent.
Par exemple, pour que ce soit plus concret pour nos auditeurs, sur Gmail, on pourrait vider sa boîte mail temporairement, sélectionne 10 emails et on fait focus 30 minutes avec un petit bouton. Et ça nous met que 3 emails qu'on peut traiter de façon tranquille. Ou si on veut taper un texte, pareil, un autre bouton qui coupe tous les chats avec nos amis, qui nous permet d'arriver au mieux sur l'article.
Alors c'est très séduisant. En plus, si vous allez sur le site de Time Well Spent, vous avez des super petites vidéos avec un joli motion design qui vous explique tout ça. C'est vraiment très évident. On se dit « Ah, mais c'est formidable, mon Gmail va devenir bien meilleur et je vais économiser du temps ». Seulement, moi, j'y vois un vrai problème de design, c'est-à-dire un design qui se place en bout de chaîne et qui considère que, on a Gmail, on a Facebook, on a Instagram. C'est ça le contexte donné. Et finalement, on peut pas créer un geste de design qui remette en cause ce donné. On est obligé de placer des services en surcouche. Et je ferai un lien avec tout un ensemble de gestes de design qui existent aujourd'hui, qui se prétend féministe. C'est par exemple tous ces services, par exemple Uber pour les femmes, en disant, oui, comme les femmes se font agresser, on a inventé un service où les femmes se font accompagner par des femmes. Ou alors, oui, comme il y a le problème de la drogue, du viol, on va vous vendre un vernis à ongles qui change de couleur quand votre boisson a été empoisonnée par une personne malveillante qui veut vous violer. Seulement, dans ce genre de dispositif, on questionne jamais en amont les causes plus globales et transversales qui amènent des choses comme la culture du viol ou le fait que les femmes soient pas en sécurité dans l'espace urbain.
Peut-être qu'on n'a pas envie, parce que si on est drogué, finalement, on veut pas sortir. Enfin, peut-être, j'en suis un exemple, vu que j'ai même pas essayé de quitter ces réseaux-là. Et c'est ce que Tristan Harris appelle attention reward, enfin la récompense d'attention. Donc c'est par exemple ce petit mécanisme assez simple qui maintenant est répandu dans plein d'applications où on slide vers le bas et ça recharge un flux, donc il y est sur Facebook ou sur Twitter, et c'est un peu comme finalement une machine à sous. On va avoir parfois un message, parfois deux, une petite notification ou parfois rien, et comme on sait jamais ce qu'il y a derrière, ça crée une addiction. Il explique ça très bien, ce Tristan Harris, et donc c'est les mêmes mécanismes que dans les casinos, et les casinos créant de l'addiction, finalement ça a été mis en évidence dans un livre qui s'appelle Addiction by Design de la chercheure Natasha Dowshul, D-O-W. Et donc peut-être que c'est ça, peut-être que finalement on en est réduit à inventer des petites surcouches parce qu'on est bien heureux d'être drogué malgré soi.
Ouais, alors du coup.
Bon, c'est assez cynique comme conclusion.
Ouais. C'est assez terrible. J'espère vraiment qu'on va pas finir là-dessus. Je panique complètement. Non, pour défendre quand même une posture de design qui serait porteuse, déjà parce que tous deux, on se veut designer, on se présente quand même comme designer et chercheur en design. On a cette ambition, je pense, de politiser le design et encore une fois de faire une critique qui soit dans des causes en amont, encore une fois, qui reviennent à des contextes antérieurs et qui s'intéressent à des causes sociétales. Alors toi, Anthony, tu dis design, éthique ? Non.
Design moral.
Design
ouais,
moral.
Parce que pour moi, ça engage une vision de la société et non pas seulement des postures individuelles, sinon le collectif, on le manque. Alors peut-être que c'est pas le bon terme, on verra dans la suite du podcast si je le garde ou pas. Je le tente aujourd'hui.
Et réinvestir, toi, réinvestir le design comme idée politique. Et pour boucler sur notre thème aujourd'hui, réinvestir l'idée de déconnexion en la séparant des idéaux pastoraux de retour à la nature. Arrêter avec cette binarité, soit on est connecté à tout, soit on est connecté à rien. Peut-être politique des filtres.
On finira pas dans l'Arzac à élever des vaches. Et puis aussi, le problème des petits pansements ou des surcouches sur les services comme Gmail ou Facebook, des petits plugins, c'est que finalement, on n'a jamais accès au système en tant que tel. Peut-être que c'est là qu'il faut revenir, je ne sais pas si c'est un retour d'ailleurs, mais pousser en tout cas davantage des logiques libres et débattues collectivement, donc autrement dit du logiciel libre, qui du coup peut faire débat, peut donner lieu à des conflits et à des discussions collectives.
Il y a des vaches dans le Larzac ? Il me paraît qu'on est précis, on est chercheurs, je ne sais pas, je demande.
Je vais tromper de région, mais chercheurs sur les technos, vous me pardonnerez, je suis trop drogué.